Bonjour à tous, c'est à Londres que nous nous trouvons aujourd'hui pour vous présenter un nouveau numéro de l'équipe Enquête. Londres, où réside Samir Nasri, l'ancien phénomène du football français qui évolue désormais à West Ham. L'ancien Marseillais a retrouvé un club début janvier après une période d'inactivité de 13 mois liée à une suspension pour dopage, nouveau soubresaut dans la carrière tourmentée d'un des personnages les plus controversés de ce jeu. Pour mieux comprendre la personnalité de Samir Nasri, l'équipe Enquête est allée à la rencontre de nombreuses figures emblématiques du football français qui l'ont côtoyé, mais aussi de ses proches et de sa famille. Samir Nasri, la mauvaise réputation. Un documentaire signé Fabien Toitier et moi-même, avec Charlène Ravin au montage. C'est tout de suite sur la chaîne L'Équipe.
Oui, ça. Samir Nasri, le kick crochet.
C'était un profil très très intéressant, même plus qu'intéressant. Ça faisait partie, comme on dit à l'époque, un peu des phénomènes.
C'est quelqu'un qui aime le football. Et c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui analyse.
Samir Nasri pour jouer le coup franc. En retrait, la frappe à la but.
Quelque part, c'était le patron. C'était le régulateur. C'était vraiment celui qui, techniquement, avait quelque chose de plus.
Je juge le joueur, techniquement, il est très fort. L'homme dans un groupe est un peu plus compliqué.
Samuel est un garçon très intelligent. Et peut-être que c'est cette intelligence-là qui lui a joué du tout, assez paradoxalement.
Samir Nasri, son premier but en bleu.
Quelqu'un qui est toujours en train d'allumer, de chambrer. Gentiment, sympa, il est avec ses copains, mais il va toujours trouver la faille, le défaut chez l'autre.
Il s'est battu, Samir Nasri. Il a feinté.
Il est un petit peu impulsif. Il manque un petit peu de diplomatie, mais il a pas un mauvais fond.
C'est pas un tricheur, c'est un mec authentique. Et souvent, être authentique peut vous emmener des problèmes.
Il a peut-être tendance à vouloir jouer le petit caïd de l'extérieur. Il a peut-être il s'est peut-être joué un rôle, on va dire.
Les deux, pour moi, sont des hypocrites.
Au niveau de l'équipe de France, il aurait dû se taire. Et ça, il aussi.
Il a certainement fait des erreurs, de grosses erreurs. Personne lui a fait de canon. Hein.
Pourquoi il le critique? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un? Il a fait quoi? Il a brûlé quelqu'un? Il a fait quoi? Il a juste dit quoi? Juste chute à un journaliste?
Quand tu vas sur Facebook, que tu vois que ça insulte ton frère, que ça insulte ta mère, franchement, ça te fait du mal. Et on l'a tous mal vécu.
On le décrit comme un voyou. C'est pas un voyou, Samir.
Peut-être que des fois, il est allé trop loin dans certaines choses, mais il mérite pas d'être sous le feu des critiques comme ça.
Il est dans l'esprit de revenir et de montrer qu'il est encore là.
Le centre! Ok, vous! Signé, Samir, merci!
Retracer la carrière de Samir Nasri, c'est d'abord se replonger dans le Marseille de la fin du siècle dernier, et notamment l'année du centenaire de l'OM, en 1999. L'époque des Ravanelli, Dugarry, Blanc et Pires, avec Roland Courbis sur le banc de touche. Dans un stade vélodrome assourdissant de ferveur, l'équipe olympienne traverse ce printemps-là une fin de saison brûlante, à la lutte pour le titre de champion de France, est qualifié pour la finale de la Coupe UEFA. C'est derrière cette vitrine clinquante et parfois sulfureuse qu'est en train d'éclore un jeune joueur au talent immense. Samir Nasri n'a pas encore fêté ses 12 ans, qu'il constitue déjà l'une des plus belles promesses de la région marseillaise.
C'est à moi, c'est mon petit joyau.
La première fois que je l'ai vu, tout de suite, j'étais revenu vers Pape où je lui ai dit vraiment là, on a trouvé un phénomène. On a vu un jeune pétri de qualité qui faisait la différence, qui était déjà capable de faire la différence et tout. Donc, c'est vrai que c'était un profil très très intéressant, même plus qu'intéressant. Ça faisait partie, comme on dit à l'époque, un peu des phénomènes.
Un phénomène né 12 ans plus tôt, le 26 juin 1987, à Marseille. Le jeune Samir grandit à Septèmes-les-Vallons, commune limitrophe du nord de la cité phocéenne. Avec ses parents puis ses trois frères et sœurs cadets, ils habitent un 4 pièces du bâtiment E2 de la Gavotte-Perret, une cité populaire défavorisée, où la pauvreté touche un habitant sur deux selon l'INSEE.
C'était relativement difficile. Mais par contre, on s'amusait. Par pas mal d'aspects, on a trouvé des solidarités et des modes de cohabitation qui ont fait que Samir a, je pense, sur les souvenirs qu'il peut avoir de la Gavotte-Perret, que des bons souvenirs.
Son père, Abdelhamid Nasri, cumule plusieurs emplois, tour à tour ouvrier, maçon, chauffeur de bus. Sa maman, Wassila Ben Saïd, est mère au foyer.
C'était une famille qui était très très importante dans le quartier. L'oncle était directeur du centre social, j'avais d'excellents rapports avec lui. La maman était c'est une femme exceptionnelle, une femme qui a une forte personnalité, qui mettait un point d'honneur à ce que ses enfants réussissent. Elle a été très proche, elle s'occupait énormément d'eux. Donc ils n'étaient jamais livrés à eux-mêmes. La maman était toujours derrière. Bon, elle participait à tout ce qui était donc la vie de la communauté. Elle était toujours partie prenante. Bon, c'était une excellente parent d'élève.
Surtout, ce que je veux pas, c'est que vous reteniez, que vous soyez en dedans, que vous ayez peur.
Après avoir joué jusqu'en poussin dans les clubs du quartier, puis au Pen Mirabeau, la commune voisine, Samir Nasri rejoint l'OM en pupille.
Éclatez-vous et amusez-vous.
Chez les jeunes, le petit numéro 10 a la réputation d'un crack. Chaque week-end, sous les yeux de son père, qui ne rate rien de l'évolution de son enfant, le garçon impressionne les observateurs par sa conduite de balle, sa technique exceptionnelle et un leadership déjà affirmé. Pour le gamin des quartiers nord, le football est une passion dévorante. Mais pas question pour ses parents, et notamment sa mère, de sacrifier l'école et de laisser leur enfant livré à lui-même. Ils vont alors le confier à un homme, Roger Giovannini, son premier entraîneur à l'OM, chargé aussi de veiller au bon épanouissement scolaire du jeune garçon.
On relevait les notes tous les trimestres. Même au niveau football, on était très attachés, comme maintenant d'ailleurs. Et c'était un peu les prémices, disons, du début des suivis scolaires, etc. Et c'est vrai qu'il avait de très très bons résultats. Et après, sa passion, c'était le football, hein. Il connaissait toutes les équipes, toutes les compositions d'équipes, des professionnels, des grandes équipes à l'époque, Milan, Real de Madrid, Arsenal, Liverpool. Et puis bon, moi j'ai eu la chance de connaître Yazid, Zinedine Zidane, parce que j'étais à Septèmes avant. Et ça, il le savait, donc on en parlait souvent. Il me demandait comment il était, quand il était jeune, etc. Bon, sans être son idole, il voulait réussir au niveau professionnel, hein, de toute façon. Quand à l'époque je lui avais dit « si un jour tu es professionnel », je te demanderai rien, mais je te demanderai au moins les enjoliveurs de la voiture que tu auras. Ça l'avait fait beaucoup rire, ça. Il m'avait dit, ouais, je te promets, je te donnerai la roue entière. Voilà, c'est tout, des petites anecdotes. Mais c'était pas des discussions, c'était des discussions de presque d'adultes, quoi, qu'on avait. Voilà. Et surtout, bon, autour du football, quoi. Et c'était un gamin qui était tranquille, qui était bien éduqué. J'ai jamais eu de soucis, moi. À mon niveau et au niveau de la catégorie, on n'a jamais eu de soucis.
Il y en a deux qui touchent le ballon! On doit la faire circuler plus que ça sur l'extérieur.
À 13 ans, Samir Nasri entre à l'internat du centre de formation de l'OM. Là où la quasi-totalité des jeunes joueurs ont échoué à confirmer et à devenir professionnels à Marseille, le minot est déterminé à réussir et affiche déjà une assurance hors norme.
Oh là là, putain !
C'était déjà un jeune qui avait une grande maturité, qui était très précoce sur le terrain, précoce en dehors. On sentait quelqu'un qui était déterminé, qui savait ce qu'il voulait et qui avait une grande confiance en lui, ce qui est important pour un footballeur de son âge.
Tous les observateurs du club s'accordent sur le potentiel rare du meneur de jeu. Son père, omniprésent, rêve de voir son fils fouler un jour la pelouse du Vélodrome. Lui, cet ancien joueur amateur brillant, dont la carrière fut stoppée durant 3 ans, après une violente altercation avec un arbitre.
Mon père, qui était un bon joueur, C'est ce que m'ont dit les grands de mon quartier. Je l'ai pas connu, bien sûr. Mais bien sûr, il vit son rêve à travers lui, comme nous. Nous aussi, le foot, c'est un peu notre passion. Et voir quelqu'un de sa famille, quelqu'un d'aussi proche de sa famille réussir, forcément, c'est vivre son rêve à travers cette personne.
International dans toutes les catégories de jeunes, Samir Nasri va connaître son premier fait d'armes lors de l'Euro des U17 en 2004. En finale, les Bleuets affrontent l'Espagne des jeunes stars barcelonaises, Cesc Fabregas et Gérard Piqué.
Je me souviens de la finale contre l'Espagne, hein, à Châteauroux. Il y a Fabregas, il y a Piqué, il y a tous ces joueurs de Barcelone. Et lui, quand je passe à côté, là, sur le banc de touche, je me dis, coach, il n'y a aucun problème, on va la gagner. Et Fabregas, qui regardait la coupe, il dit à Fabregas, non, ça va pas être pour toi, elle va être pour nous. Vous n'avez aucune chance de nous battre. Moi, je suis arrivé sur mon banc, j'ai dit, ils sont quand même gonflés, quoi. Hein, je pouvais compter sur lui.
Les Français s'imposeront 2-1 en toute fin de match. Et Samir Nasri inscrira le but de la victoire d'une frappe limpide. Aux côtés des Benzema, Ben Arfa ou Menez, il est l'un des visages emblématiques de la génération 87. Cette génération dorée du football français, starifiée depuis l'adolescence.
Lorsqu'ils ont gagné le titre champion d'Europe, le soir, ils tapent à la chambre. Hein, il me dit, coach, voilà, je vous porte le trophée pour que vous dormiez avec. J'ai dit, c'est sympa, j'ai dit, parce que ça fait quand même 2 ans que je vous lâche pas, hein, je vous fais pas de cadeau. Et il me dit, non, mais on vous remercie parce que sinon on serait pas arrivé. Et il me dit, par contre, à 8h, au petit déjeuner, est-ce que vous pouvez le redescendre parce que on va la revoir, la coupe. Et je trouvais que c'était, il y avait des relations, très bonnes relations.
Pierre Ducasse a côtoyé Samir Nasri dans quasiment toutes les sélections de jeunes. L'ancien milieu défensif des Girondins de Bordeaux et du Racing Club de Lens, retiré du milieu pro, a gardé intact les souvenirs de ce championnat d'Europe 2004.
Moi, je pense que à 16 ans ou 17 ans, la majorité, ils vont fonctionner un peu plus comme moi. Ils vont avoir un peu de pression. Ils vont dire, ouais, on va jouer contre l'Espagne. Il y a Fabregas, il y a Piqué. On savait déjà que c'est qui jouait au Barça. Ils auraient pas mis un pied devant l'autre. Nous, le fait qu'ils jouent au Barça, pour nous, c'était des génies, les types. Alors que Samir, il avait déjà parlé. Il avait déjà dit à Fabregas, on va vous retrouver en finale et on va vous gagner. Il était dans l'anticipation. Il était, il avait une certaine précocité. On peut pas le nier.
Avant de remporter le titre face à l'Espagne, les Bleuets avaient affronté le Portugal en demi-finale. Ils étaient menés 1-0 au bout d'une première mi-temps indigente. L'entraîneur de l'époque, Philippe Bergerot, se souvient alors d'une mise au point musclée dans le vestiaire.
Donc je rentre dans le vestiaire et je dis je vais les massacrer, quoi. Donc je rentre dans le vestiaire, je me dis non, je vais pas les massacrer, je vais changer de comportement. Je leur dis, écoutez, ça fait 2 ans qu'on travaille et sur des remontées de ballon. Là, chacun joue pour soi. Je lui dis, vous voulez la médaille de bronze ? Il dit, ben, on a la médaille de bronze, rhabillez-vous. On se casse, rhabillez-vous à la mi-temps. Et je sors, je ferme la porte, et je regarde à travers un petit peu la serrure, parce que je voulais savoir ce qui allait se passer, quoi. Puis mon staff était sorti aussi. Et Samir et Tico ont pris l'équipe en main. Et ils ont dit, le coach a raison, on va repartir sur les schémas qu'on a travaillés. Et puis il y en avait un qui commençait à se rhabiller, quoi. Il avait la médaille de bronze. Alors tu avais demandé son nom, Joker.
Parfois on était dans les chambres, Samir il venait pas raconter la petite copine qu'il avait eue il y a 2 mois à Marseille. Il venait et il parlait de foot, tout le temps. Par exemple, sur le débrief d'un match, après un match, si on était dans la chambre ou qu'on discute au repas ou des choses comme ça, c'est pas quelqu'un qui faisait le con à table à faire le joyeux luron. Il allait discuter, on est face à face, il allait dire putain, à un moment j'ai pris le ballon, j'ai fait un truc comme ça, j'ai perdu la balle, peut-être j'aurais dû faire ça. Il parle sans attendre de réponse parce qu'il a les questions et les réponses, Samir, quand il se pose une question sur le foot. Mais il était déjà professionnel sans le savoir.
Après le titre de champion d'Europe, tout va s'accélérer pour l'enfant de l'OM. 3 mois plus tard, au cœur de l'été, il signe son premier contrat professionnel a tout juste 17 ans. L'adolescent, qui s'apprêtait à passer un BEP comptabilité, disputera son premier match le mois suivant, lancé par José Anigo en cours de jeu face à Sochaux. Le 18 octobre, il est titularisé pour la première fois au Vélodrome contre l'AS Saint-Étienne. Dans un contexte marseillais délicat, marqué par le départ de Didier Drogba et des résultats catastrophiques, il s'impose progressivement comme un cadre de l'effectif. Philippe Troussier, qui a remplacé José Anigo fin novembre, lui confie régulièrement les clés du jeu. Avant de s'écrouler en fin de saison, l'OM se relance dans la course au titre et le doit notamment au culot et au talent de sa jeune pépite.
Allez, en rentrée pour Nasri, le but, c'est but.
Il devient en quelques mois l'emblème de la formation marseillaise, si décrié jusqu'alors, et bonifie un effectif de stars en déclin, celui d'Elisa Razou, exfiltré au mercato d'hiver, Barthez et Louis Ndoula.
Pour moi, Samir Nasri a été probablement, à l'Olympique de Marseille en tout cas, un de ces joyaux sortis du centre et qui pouvait être le digne représentant précisément d'un centre dont on n'a pas toujours dit le plus grand bien.
Mais le nouveau statut du jeune Marseillais va engendrer des premières étincelles. En avril, Philippe Troussier ne le titularise pas lors d'un OM PSG. Frustré, dépité, il regrettera publiquement ce choix en zone mixte.
J'ai énormément de regrets. Je m'attendais à jouer ce match. Je n'ai pas eu d'explication. Dans la presse, il a dit qu'il fallait faire jouer des joueurs d'expérience, alors je me tais. On verra la suite.
Des propos inhabituels pour un garçon de 17 ans, qui semble n'avoir peur de rien, et qui ne s'embarrasse pas, déjà, des précautions d'usage.
Ça peut choquer, ouais, des gens, surtout de son âge. Voilà, vu qu'il était jeune et que ça pouvait être pris pour quelqu'un qui se la raconte un peu, ou qui veut faire plus grand que son âge, mais non, c'est Samir, il est comme ça, et je pense qu'à 10 ans, 8 ans, il était déjà comme ça.
Attention, c'est un joueur, mais comme d'autres, hein, il n'était pas le seul, qui ont beaucoup de caractère, et comme je te dis, ces joueurs de caractère, quand ils jouent, ça se passe plutôt bien. Quand ils ne jouent pas, il faut faire attention.
Oh, le but! Oh, quelle frappe!
C'est pas fini, il y a le grand art qui peut sortir un deuxième poteau! Oh, quel but! Et le troisième but, signé Samir Nasri! Et quel but du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille!
Philippe Troussier partira dès la fin de la saison 2004-2005. Peu à peu, Samir Nasri s'affirme lui comme un cadre incontournable du vestiaire marseillais, renforcé par les arrivées successives de Franck Ribéry et de Djibril Cissé.
Cissé, la remise pour Samir Nasri, le petit crochet. Nasri, but!
Porté par ses stars, l'OM progresse et finit par retrouver la Ligue des Champions. Nasri, lui, devient un joueur de plus en plus influent au sein du club.
À l'Olympique de Marseille, en tout cas, c'est vrai qu'il était dans les vestiaires quelqu'un d'important. Quand un joueur nouveau arrivait, que ce soit Ribéry à une époque ou Cissé, c'est vrai qu'il avait toujours cette tendance à les approcher et même, je dirais, à faire d'eux des joueurs assez proches de lui. C'est vrai qu'il aimait être un peu un joueur d'influence dans les vestiaires.
Personnalité forte du groupe olympien, Samir Nasri peut ainsi faire de l'ombre à certains coéquipiers. À son arrivée au club en 2006, Mathieu Valbuena fut longtemps brimé par une partie des cadres de l'équipe. Ce qui était un jeu pour certains s'est transformé en véritable calvaire pour l'ancien joueur de Libourne, profondément marqué par son bizutage dans le monde professionnel.
Quand il est arrivé, c'est vrai, Valbuena, oui, il a été souvent l'objet de colibés. Il a été l'objet, je dirais, de moqueries. Bon, il venait de troisième division. Ce n'était pas du tout un joueur, je dirais, recruté à prix d'or. Je me souviens encore que Valbuena, on l'avait acheté à 80 000 euros. Ce qui, avouons-le quand même, était véritablement, comme dirait Tapie aujourd'hui, cadeau. Bon, il a fallu qu'il fasse ses preuves. Il a fallu que,
Oui, il a été un tout petit peu le souffre-douleur peut-être du groupe.
Mais Samir, comme d'autres, pouvait être moqueur.
Oui, certainement. Oui, comme tous les joueurs. Les joueurs sont très durs. Les joueurs, je les assimile souvent à des enfants. Ils sont capables de méchanceté parfois même. Ils sont capables de mais sans se rendre compte parfois de ce qu'ils font.
Je pense que c'est peut-être sa forte personnalité. Il prend peut-être sûrement beaucoup de place. Et après, sûrement, les gens qui sont un peu autour de lui, qui ont peut-être ce manque de personnalité, ce manque de caractère, ils se sentent un peu tout petits quand ils sont autour de lui. Ça peut être un problème aussi pour ces gens-là.
Si son influence dans le vestiaire et dans le jeu de son équipe sont indiscutables, Samir Nasri souffre de statistiques poussives. Une poignée de buts chaque saison, malgré une trentaine de matchs disputés. Un débat qui escortera longtemps sa carrière.
Vu les qualités qu'il avait, c'est quelqu'un qui n'a pas assez marqué de buts dans sa carrière. Parce qu'il a les capacités de le faire. Mais il faut aller devant pour marquer des buts. Et c'est quelqu'un qui se reposait un petit peu sur ses acquis techniques, qui sont très grands. Il a une qualité de vitesse incroyable, Samir. Alors il faut qu'il soit au bon poids. Ça aussi, c'est un problème. Et là aussi, on s'est un petit peu accroché. Mais Samir, quand il est au meilleur poids de sa forme, quand il est bien en tant qu'homme, en tant que joueur, c'est un joueur exceptionnel.
3 mois avant son 20e anniversaire, Samir Nasri honore sa première sélection avec les Bleus. Contre l'Autriche au Stade de France, c'est le grand soir du Marseillais.
Il faisait partie de cette génération exceptionnelle. C'était vraiment entre Atem, Karim, c'était ceux dont on parlait. On parlait vraiment comme des futurs stars.
Positionné en meneur de jeu par Raymond Domenech, en soutien de Djibril Cissé et Nicolas Anelka, il délivre ce soir-là une passe décisive à Karim Benzema, entré en jeu quelques minutes plus tôt.
En retrait, la frappe et le but !
Le début, pouvait-on croire alors, d'une nouvelle ère chez les Bleus, incarné par ces deux joyaux de la génération 87.
Premier but !
C'était une évidence qu'ils allaient devenir des grands, des joueurs de haut niveau qui devaient s'installer en équipe de France durablement.
Le Marseillais semble prêt à assumer un rôle prépondérant chez les Bleus.
Il essaie tout seul.
À Auxerre, ce 6 juin 2007, l'équipe de France joue contre la Géorgie sa qualification pour l'Euro 2008. Troisième sélection et premier but, il est élu homme du match. La folie Nasri s'empare du football français.
Samir Nasri, son premier but en bleu. Souvenez bien de cette date. C'est aujourd'hui à Auxerre que Samir Nasri marque son premier but en équipe de France de football.
Il y a un cordon de CRS ou de flics qui doit l'aider à remonter dans la bagnole parce que c'était la fin du rassemblement de l'équipe de France à Auxerre. C'était un petit stade, on est en pleine campagne. Et on le dit à cette époque-là, et c'est un peu aussi le jeu des médias, futur Zidane, ça ressemble à, au niveau de l'écho médiatique, donc on est sur un joueur en devenir, avec un D majuscule.
Malgré son jeune âge, quand il est arrivé en sélection, on a tout de suite vu qu'il voulait s'imposer, qu'il voulait des responsabilités, qu'il voulait un rôle important.
Son jeu, sa personnalité, sa maturité séduisent autant les médias que le grand public. Interrogé sur sa qualité d'analyse, il déclarait ceci.
C'est choquant pour moi quand un joueur n'arrive pas à analyser un match. C'est mon métier, autant le connaître sur le bout des doigts. C'est important de s'y intéresser, de connaître ses adversaires, d'avoir des conceptions. Depuis que je suis petit, j'achète des livres. Ça m'a toujours intéressé.
Il a une très bonne vision du football, Samir. C'est quelqu'un qui aime profondément le football. Il aime comprendre les choses. Tactiquement, c'est un joueur qui réfléchit. C'est vrai que ça, c'est surprenant, mais j'ai appris à le connaître à travers ça. Et c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui analyse.
Et surtout, un peu comme Thierry Henry, qui est un garçon qui s'est beaucoup intéressé, je dirais, à son métier. Et ça, c'est pas toujours le cas. Samir, il était capable, je dirais, de vous parler de tout ce qui s'est passé sur tous les terrains, aussi bien en France qu'en Europe.
Je me rappelle, il avait conseillé Benassia, un moment donné, il avait dit, lui, il y a un jeune qui est là, et c'était un bon conseil. Et puis, il connaissait tous les jeunes qui étaient, c'était un copain à lui, donc c'était plus facile, mais tous les jeunes de Ligue 2, il les connaissait, il connaissait tout le monde. Il a une culture foot, c'est un passionné de foot. Et moi, ça, je respecte.
Un intérêt pour le football et ses coulisses qui peut parfois tourner à l'obsession. Un jour de mars 2008, furieux après des propos tenus par Pape Diouf dans la presse, qui avait qualifié les joueurs olympiens de nabab et de vizir, il débarque avec Djibril Cissé dans le bureau de son président pour demander des explications.
Ça les avait vexés, effectivement. Quand j'avais parlé, effectivement, des joueurs qui s'étaient comportés en nabab et en vizir, oui, c'était exactement ça. J'étais venu parce que quelqu'un leur avait dit, oui, que c'était à eux que je m'adressais prioritairement. Alors que ce n'était pas à eux que je m'adressais à l'ensemble de l'effectif. Et ils étaient venus parce qu'ils n'étaient pas très contents de cette expression-là, qui n'était pas, de mon point de vue, si méchante que ça. Peut-être qu'elle était original par rapport à ce qui se disait dans le milieu. C'est la seule fois où j'ai vu Samir venir effectivement dans mon bureau. J'allais presque dire pour se plaindre, mais ça n'a pas été plus loin.
Ce côté frondeur, ancré en lui, va provoquer des premières secousses en équipe de France. À l'Euro 2008, où il ne dispute qu'une vingtaine de minutes cumulées contre la Roumanie et l'Italie, Samir Nasri s'accrochera sévèrement avec William Gallas et agace plusieurs tauliers du groupe.
Il y avait Thierry Henry, Vieira, Makelele, Thuram, Gallas. Respecte un peu. Respecte, ça veut pas dire tire-leur les pompes, hein. C'est pas ça. Mais, mec, ils sont là avant toi. Ton tour, il viendra. Le talent, il est là, hein. Et il y a des codes que les joueurs connaissent. Et puis si tu commences à vouloir griller ces étapes-là, tu peux. Et c'est sur le terrain que tu dois le démontrer. Pas dans les coulisses. Et ça, il a... Je pense qu'il a compris, mais il a dû se dire, je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais tous les bouffer. Je crois. Et c'est une erreur.
Et il y avait un groupe de jeunes qui vivaient ensemble, et puis un groupe d'anciens qui étaient en train de finir ensemble. Voilà, on avait ça. En 2008, et ça n'a pas... Ça s'est pas croisé. Ça s'est resté vraiment deux mondes à part. Voilà, c'est séparé. Puis les neutres au milieu, mais trop de groupes.
Je sais pas. J'ai jamais pensé qu'il y avait des clans. C'était plus des infinités des uns par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on avait vécu en 2006. Mais je sais pas. Je pense pas être d'accord avec ce que vient de dire ce que vient de dire Renaud.
C'est au cours de cet Euro qu'une scène aussi symbolique que puérile s'est déroulée dans l'intimité du groupe. Lors d'un déplacement en quart, Samir Nasri prendra la place d'ordinaire réservée à Thierry Henry. Avec autorité, William Gallas sommera le Marseillais de s'installer ailleurs, le point de départ d'une longue inimitié entre les deux hommes. L'ancien défenseur international Jean-Alain Boumsong était présent lors de cet épisode.
Samir, il comprenait pas cela. Et on peut le comprendre, parce que il n'y a pas de place attribuée. Mais il y a quelques susceptibilités quand on arrive dans un groupe qu'il faut comprendre. Et il y a aussi un droit d'aînesse, il y a une certaine ancienneté qu'il faut respecter.
Sincèrement, je pense que c'est ridicule. Après, on peut dire oui, la place aux anciens, qu'ils s'en soient toujours au même endroit, je peux très bien le comprendre. Mais après, c'est toujours pareil, c'est comment on fait comprendre à un jeune qu'il n'est pas à la bonne place. Il y a des manières, il y a des façons de parler aux gens qui te permettent d'être respecté.
Et même si on a le sentiment que c'est pas équitable, parce que quand on est en équipe de France, c'est comme ça vraiment son état d'esprit, hein, Samir. Quand on était en équipe de France, à partir du moment où on est dans une équipe, on est tous égaux, bah il n'y a pas de différenciation particulière. Mais ces codes-là, il fallait ces susceptibilités-là, il fallait qu'ils les appréhendent et qu'ils gèrent au moins le temps des débuts pour ne pas offusquer certains. Il l'a pas fait, il a agi normalement et ça a créé quelques tensions.
Pour Samir, être jeune, ça veut pas dire être mis en retrait, ça veut pas dire d'être discret ou de pas afficher ses idées. Je pense que il a du tempérament, il a du caractère, il a même du culot. Euh, et, et ça peut être positif. Voilà, ça peut décomplexer pas mal de jeunes, oui.
Quelques semaines après cet euro désastreux, conclu par une élimination au premier tour, la vie et la carrière de Samir Nasri vont être bouleversées. Très encadré par ses parents, qui le tenaient à l'écart des mauvaises fréquentations, le jeune homme s'apprête à quitter l'appartement familial de la Gavotte Perret, qu'il occupe toujours malgré ses 4 années professionnelles à l'OM et son salaire XXL. Direction Londres et le grand club anglais d'Arsenal.
Tant que Samir était à Marseille, était ce jeune joueur que son père amenait, il y a des règles que nécessairement il devait respecter. Parce que la famille voulait que ce soit comme ça. Et je peux te dire, je peux témoigner ici de manière absolue que son père, aussi bien que sa mère, ne s'amusait pas avec certaines valeurs. Ils étaient même, je dirais, très sévères vis-à-vis de Samir.
Il franchit un pas incroyable dans sa carrière en allant à Arsenal. Là, il arrive en plus dans le grand Arsenal de Wenger. Donc, il passe un step incroyable dans sa carrière. Mais aussi, d'un autre côté, il est un peu plus tranquille de faire ce qu'il veut parce que il a moins le paternel sur le dos. Il est peut-être aussi un peu plus, à ce moment-là, un peu plus show-off, un peu plus bling-bling. Il rentre dans un autre univers. Je pense que c'est à ce moment-là aussi, quand il va à Londres, qu'il rencontre Tatiana Golovin aussi, qui sera sa compagne.
À 21 ans, il signe 4 ans chez les Gunners. Son transfert est estimé à 17 millions d'euros. Selon nos informations, il gagne alors 2 millions d'euros par an net d'impôts.
J'entendais beaucoup de choses sur lui. C'est un mauvais garçon. De toute façon, il a un égo surdimensionné. Après, j'entendais c'est un super joueur, c'est quand même un bon mec. De tout. Donc, j'arrivais pas exactement à savoir à qui j'avais affaire. Mais moi, chaque fois que je le voyais, il me plaisait. Je voyais un super footballeur, je voyais un mec sympa. J'étais enchanté par Samir. Je me rappelle parce qu'il avait signé chez nous quand il était à Clairefontaine. Il était venu, on était allé signer dans Paris. Et donc moi, j'étais là, il était avec ses agents. J'ai trouvé un garçon d'une grande simplicité.
Arsenal est à cette période l'un des plus grands clubs de la Première Ligue. Et Samir Nasri devient rapidement un joueur incontournable de l'équipe d'Arsène Wenger.
And Nasri, what a fantastic goal for Arsenal.
Il n'a pas de facteur limitant, ce garçon. Mentalement, c'est pas un garçon faible, bien au contraire. C'est un garçon qui a une force mentale. Puis physiquement, c'est un athlète. Je pense qu'il va vite, il est capable de courir très longtemps. Après, il avait un peu de déficit de stats. Il est pas très buteur, pas très. Il fallait qu'il. Mais ça, c'est tous les jeunes. On savait que ça, avec l'âge, il allait améliorer ça. Donc nous, c'était un profil parfait pour nous, quoi.
De l'environnement familial de la Gavotte Perret au fastueux décor de la City londonienne, l'univers du jeune homme a totalement basculé. Durant ses temps libres, Samir Nasri se rend régulièrement à Paris et va se lier d'amitié avec un personnage controversé, Farouk Hachoui, connu pour fréquenter le milieu du grand banditisme francilien. Les deux hommes deviendront associés dans 2 commerces de bar à chicha dans la région parisienne.
C'était vraiment une fascination assez mutuelle. Lui était fasciné par le footballeur et je pense que Samir Nasri lui aussi est laissé libre cours aussi à une certaine fascination, une certaine c'est épaté par le personnage, par sa virilité, par ce qu'il pouvait dégager, par aussi ce qu'il pouvait lui apporter comme ça fait toujours bien, voilà, d'avoir un mec comme ça autour de soi, qui on a les épaules, ses épaules plus solides, en fait.
Cette amitié sulfureuse aura des conséquences jusqu'en équipe de France, à travers l'hostilité tenace qui oppose le Marseillais à William Gallas.
Nasri apprend que à la veille d'un rassemblement à Clairefontaine, que Gallas est à l'hôtel Coste avec des amis. Et effectivement, quand il sort, ils veulent lui mettre un coup de pression. Parce qu'il y a Farouk Hachoui aussi. Ils sont plusieurs dans la bagnole. C'est tous des gars de la chicha où ils traînent. Et là, il se monte le bourrichon comme des petits fous. On va mettre un gros coup de pression. Mais il se trouve, en fait, qu'un des proches de Gallas le connaissait aussi. Donc ça a pu désamorcer la situation assez rapidement.
Concrètement, il vous a menacé physiquement.
Comment?
Concrètement, il vous a...
C'est ce que vous dites. Moi, je n'ai rien dit, moi. Moi, je n'ai rien dit.
ça restera un moment désagréable de votre carrière.
Ouais. Ouais.
En équipe de France, Samir Nasri traverse alors une période extrêmement délicate. Entre l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010, il ne dispute que 3 des 22 rencontres des Bleus, dont une seule titularisation. Raymond Domenech, qui ne supporte pas le comportement du joueur, ne le convoquera pas pour le Mondial sud-africain. Le premier camouflé de la carrière du Marseillais.
J'ai écarté d'autres joueurs comme ça, pour ses comportements. Il a, je pense, un peu d'orgueil qui l'a fait imaginer qu'il était supérieur aux autres, intellectuellement, techniquement, tactiquement, qu'il savait plus et que les autres c'était et c'était un peu déjoué.
On a élevé des statues qui font pas forcément beaucoup de bien, quoi. Je pense à Galas, je pense à Henry, et ainsi de suite. Donc on élève des statues à des joueurs alors qu'on est dans un sport collectif, et ainsi de suite, qui peut nuire sur le collectif. Là, aujourd'hui, Deschamps, on l'aime, on n'aime pas, il a nivelé le tout. Enfin, les gars, il n'y a plus de vedettes ici. Alors que là, à l'époque où Samir jouait, nouvelle génération, il se prend de plein fouet génération d'anciens, qui eux travaillent ou sont dans une logique de gourou. On élève tel joueur ou tel joueur, c'est des dieux, on ne doit pas les toucher, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, c'est plus sain. On dira c'est plus sain. Ça aurait été plus simple pour lui aujourd'hui que à l'époque où il a intégré.
Et lui, il a peut-être pas fait forcément attention à tout ça parce que ces histoires-là, même de Galas qui était quand même connu dans le milieu du foot, je pense que ça n'a pas non plus arrangé son image auprès des journalistes, auprès des initiés un peu. Le grand public n'était pas forcément au courant, mais voilà, dans le milieu du foot, tout se sait, les dirigeants le savent, les coachs le savent, etc. Et ces petites histoires-là, ça, je pense que ça a pu jouer contre lui.
Raymond Domenech ne lui a pas non plus pardonné d'avoir joué, selon lui, avec les nerfs de ses camarades 2 ans plus tôt. Mai 2008, le sélectionneur convoque 30 joueurs dans un groupe élargi en vue de l'Euro. Il en écartera 7 à la fin du stage à Tignes. Le jour de l'annonce, certains joueurs, dont Samir Nasri, auraient joué les apprentis sélectionneurs.
J'ai su après ce qui s'était passé dans les vestiaires, mais il paraît qu'il n'était pas tout seul. Ils étaient plusieurs à avoir fait ça, à frapper, alors que je devais frapper, moi, pour annoncer aux joueurs qui venaient pas. On devait les convoquer, on frappait à leur chambre pour leur dire de venir, pour leur annoncer, ce qui était déjà lourd. Et lui s'était amusé à frapper aux portes pour faire croire aux mecs que c'était eux qui venaient pas. Rétrospectivement, je me dis, si je l'avais su, je pense que c'est sa porte que j'aurais fermée directement, parce qu'on peut pas se comporter de manière aussi cruelle avec les autres. Mais bon, il était pas tout seul.
Ça me choque pas, puisque Atam, il me l'a fait, et après, il est rentré, on a discuté, il m'en a parlé, donc, moi, ça me choque pas. S'il le faisait, il cogne, il s'en va, il y a des gens, ils font des blagues, ça peut arriver, vous avez une frayeur, et puis finalement, vous retrouvez à rester dans les 23, bon, cette frayeur-là, c'est une blague que vous ne prenez pas avec, de la mauvaise manière.
Pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir.
Raymond, qu'est-ce que vous pensez?
Un petit commentaire.
Au lendemain du fiasco sud-africain, l'arrivée de Laurent Blanc à la tête des Bleus va relancer la carrière internationale de Samir Nasri.
Quand il y a le passage de témoin avec Laurent Blanc, on fait un tour d'horizon, de pas mal de profils, parce qu'il est plus que jamais d'actualité, sportivement parlant. Et d'ailleurs, Blanc le rappelle assez vite. Il donne un rôle important, d'ailleurs, pour la phase de qualif. Mais, on dit, attention, faut l'avoir à l'œil.
On va dire que Laurent Blanc, c'est le retour des joueurs de talent. Il va chercher les joueurs de talent. Il y a une légende ou une illusion que Domenech s'est coupé des joueurs de talent. Et Laurent Blanc, clairement, il dit « Moi, je veux du fond de jeu, donc je vais chercher les joueurs de talent. » Nasri, là-dedans, c'est un élément important.
Son année 2010 avec les Gunners s'est révélée étincelante.
Clever from Nasri. Very clever. Brilliant play from Nasri. What a goal!
Il est élu meilleur joueur français par France Football. Mais à Arsenal, le Marseillais, qui court toujours après un trophée en club, ne gagne rien. Des guerres d'ego au sein du vestiaire expliqueraient en partie ses échecs successifs, malgré la présence de grands joueurs dans l'effectif.
La situation dans le vestiaire d'Arsenal était vraiment compliquée, comme si une équipe totalement nouvelle se formait, avec des joueurs qui avaient une forte personnalité. Adebayor, Nasri, Robin Van Persie, Serge Fabregas, de très fortes personnalités. Et évidemment, quelque chose n'allait pas entre Nasri et Galas. Ils ne s'entendaient pas, ne se supportaient pas. C'est donc devenu un vestiaire très toxique, très difficile à gérer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Arsenal avait une équipe incroyablement talentueuse, des joueurs doués, mais qui finalement ont échoué et n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés, simplement à cause de cette dynamique pourrie du vestiaire.
Cette saison-là, en mars, Laurent Blanc lui confia même le brassard lors d'un déplacement des Bleus au Luxembourg. À 23 ans, il devient le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France.
Il a besoin d'être impliqué techniquement, il a besoin d'être... Après, je sais pas si c'est un garçon de vestiaire qui est capable d'élever la voix, je sais pas si ça c'est sa vraie personnalité, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de se sentir influent techniquement dans une construction de jeu. Il a besoin d'être impliqué.
Samir Nasri devient aussi, à l'été 2011, le joueur français le mieux payé au monde. Il s'engage avec Manchester City, qui verse à Arsenal 28 millions d'euros et lui offre un salaire de près de 10 millions d'euros bruts par an. Patrick Vieira, son ancien coéquipier en bleu, a participé à le convaincre de rejoindre les Citizens, malgré l'intérêt initial du rival United. Selon nos informations, son agent de l'époque, Jean-Pierre Bernès, avait même rencontré l'entraîneur de United, Sir Alex Ferguson, à Paris quelques mois plus tôt.
C'était vraiment marqué l'histoire à City. À la United, il aurait sûrement peut-être gagné des titres, mais ça aurait rien changé sur l'histoire un peu de United. Mais il y avait encore quelque chose de vraiment fort à faire avec City. Et ça, il l'avait très bien compris.
Nasri a été l'un des premiers gros transferts après le rachat du club par Abu Dhabi. Il venait d'Arsenal et selon certaines rumeurs, il était tout proche de signer à Manchester United. Finalement, il est venu à City. C'était vraiment un transfert énorme pour nous.
À l'automne 2011, lors d'un match crucial contre la Bosnie, Samir Nasri provoque et transforme un pénalty qui envoie les Bleus à l'Euro 2012. Le Mancunien prend de l'épaisseur au sein du groupe France. Mais partout où il passe, Samir Nasri continue de susciter le débat. Avant l'Euro, il est invité à participer à une réunion avec le président de la fédération, aux côtés d'Hugo Lloris et Alou Diarra, deux cadres de l'ère Laurent Blanc. Il est notamment question des primes qui seront attribuées aux joueurs. Selon nos informations, Lloris, qui apprécie déjà très peu Nasri, a des doutes sur les bienfaits de sa présence. Ses craintes se confirmeront au moment de parler argent. Nasri, en désaccord avec son président sur un point, ne mâche alors pas ses mots envers Noël Le Graët.
C'est sûrement des mots qui ont dépassé sa pensée. Il a... À mon avis, sans l'appui de ses copains, il aurait très certainement quitté le stage. Très certainement. La fédération avait changé et il avait peut-être un peu oublié.
Samir, disons que c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Ça veut dire que il veut se défendre quand il est mis un petit peu en porte-à-faux et parfois le temps employé. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il manquait un petit peu de diplomatie. C'est comme ça. Il a peut-être un caractère trop entier, il dit peut-être trop les choses. Peut-être qu'on est dans un milieu où il ne faut pas toujours tout dire. Il faut en garder pour ça.
Vous a manqué de respect ?
Je ne me rappelle pas.
Ça veut dire oui ?
Je ne me rappelle pas.
L'Euro va marquer un point de rupture brutal entre Samir Nasri, les médias et une partie de l'opinion publique. Ce 11 juin 2012, l'équipe de France dispute son premier match de poule face à l'Angleterre. Menés 1-0, en difficulté, les Bleus égaliseront grâce au Mancunien, qui célébrera son but, le doigt sur la bouche, en visant la tribune de presse, insulte à l'appui.
Ce geste-là, je l'ai interprété différemment des autres. Non pas sur le champ, l'expression, je dirais, d'une arrogance, d'une insolence d'un joueur, mais plutôt, je dirais, le ras-le-bol d'un joueur qui savait pertinemment où il en était, qui savait pertinemment qu'il ne donnait pas tout ce qu'on attendait de lui et qui ne supportait pas que ce soit les autres qui le disent à sa place.
On pensait que les fantômes de Naïsna étaient passés. C'est pas la même chose, évidemment. Mais on replonge quand même dans une atmosphère plus négative, de pas contrôlée, en plus, de la part du staff. Donc ce geste qu'il a quand il marque son but, qui s'adresse à la presse et à certains journalistes, ça vient quand même donner une fausse note.
C'est toujours pareil. On retient toujours les choses négatives de quelqu'un, surtout dans son caractère. Et il en a beaucoup, lui. On l'aime ou on l'aime pas, mais il est comme ça. C'est vrai que c'est quelqu'un de sanguin. Il est toujours souriant. Il est toujours, mais c'est quelqu'un à l'intérieur qui ça brûle, ça brûle. Et donc de temps en temps, il a des coups de chaud comme ça. C'est un travail aussi à faire sur lui-même.
Les moments de tension vont alors se succéder au fil de la compétition.
Avant le quart de finale, moment de l'échauffement où il y a lui, Menez, bon, l'échauffement, je crois il se fait un peu à la légère, quoi, alors que c'est un match de quart de finale de championnat d'Europe des Nations. Et évidemment, le staff l'observe et ça plaît pas. Donc on est dans une atmosphère tendue.
L'équipe de France achèvera son parcours contre l'Espagne, éliminée sans gloire de 0-0. Entrée en jeu, Nasri a paru peu concerné. À sa sortie des vestiaires, il est déçu, agacé. Un clash l'oppose alors en zone mixte, un journaliste de l'AFP.
Il fait pas que passer, il s'arrête plus ou moins. Il discute avec l'un, avec l'autre, peut-être pas qu'avec des journalistes d'ailleurs. Et donc il y a un journaliste qui essaye d'avoir une interview, de recueillir ses impressions sur ce match très décevant, de la part de l'équipe et de sa part lui aussi en particulier. Et puis Samir Nasri lui dit non, je vais pas vous répondre. De toute façon, ça se passe mal avec vous. Vous transformez tout ce que je dis. Il est un peu virulent. Le journaliste insiste et Samir Nasri lui oppose un refus catégorique. Il a des mots qui sont un peu durs quand même dans son refus. Et puis il traîne dans cette zone en fait. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et là, le journaliste dérape et lui dit « Bah, si t'as rien à dire, si tu parles pas, casse-toi. » Nasri semble marqué par cette invective. Dans un premier temps, il s'en va et en fait, il revient tout de suite. Et là, ça dérape à son tour et il a des mots très durs à l'égard du journaliste et insultants.
Il a eu un impact négatif, pourquoi ? Parce qu'il s'est attaqué à la seule institution qu'il ne faut pas s'attaquer, à la presse. Là, si tu es cash, ça va te soulager, ça va peut-être te faire plaisir, mais il va falloir en payer les conséquences. Point.
Habité par le sentiment d'être l'objet de critiques incessantes, Samir Nasri a développé une rancune tenace envers les journalistes. 4 jours après l'élimination, il publiera ainsi ce message sur les réseaux sociaux. Entre regret et rancœur.
Que les supporters et tout particulièrement les enfants sachent que je regrette sincèrement que mes paroles aient pu choquer. J'aime l'équipe de France, le football, et j'ai un profond respect pour le public. Pour le reste, il s'agit d'une affaire personnelle entre quelques journalistes et moi. Je m'en expliquerai quand le moment sera venu.
D'abord, il lisait beaucoup, il lisait quasiment tout ce qui était football. Toutes les revues de football, il les lisait, toutes les émissions aussi touchant au jeu, il les regardait. Et Samir est un garçon, c'est vrai, qui pour moi a tout été dans son évolution très football. Et ce très football-là l'a mené donc, je disais, à juger ses prestations. Et cela, ça l'agaçait profondément, j'allais même dire prodigieusement, lorsque, se sachant lui-même mauvais, d'autres le disaient. Et quand il lisait dans la presse qu'il n'a pas été bon, alors il supportait très mal, je dirais, ces remarques-là, cette analyse-là, parce que lui-même, il en avait déjà fait l'analyse, je crois.
Un mois plus tard, Il est suspendu 3 matchs par la commission de discipline de la fédération.
Ce qu'il a fait n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Naïsna, il n'y était pas. Ce qu'on a tendance à parfois oublier, comme pour Benzema. Mais c'était impossible d'avoir cette attitude un peu grande gueule, un peu caractère fort et dérapage après ce qui s'était passé à Naïsna. C'était quasiment une forme de suicide médiatique.
Sur cette suspension-là, ça aurait pu être autre chose. Autre chose, je pense.
C'est-à-dire ?
Je sais pas, faire une conférence de presse, par exemple. Et s'expliquer bien comme il faut. Ça aurait été plus peut-être constructif pour vous et pour le joueur.
Il a été pris en partie pour faire un exemple. Malheureusement, voilà, les joueurs n'ont pas droit à, n'ont pas droit à l'erreur et on est très peu conciliant avec un joueur de foot.
Ce jour-là étaient aussi jugés 3 autres jeunes joueurs pour des écarts de conduite supposés durant la compétition. Yanem Villa, Jérémy Ménez et Atem Ben Arfa. Ces problèmes de comportement marquent l'échec d'une génération et montrent une fédération impuissante. Pardon. Maître Carlo Alberto Brusa était à l'époque l'avocat de Jérémy Ménez. Il est devenu au fil des années le conseiller de Franck Ribéry, Laurent Blanc et Didier Deschamps.
C'était la première génération post-98 de grands joueurs, de bons techniciens, de très bons. Et immédiatement, la presse en a fait écho, mais dans une forme de starification que j'appellerais débridée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même au niveau de l'équipe de France, il y a une structure de communication, de gestion, d'accompagnement qui a été améliorée depuis Naïsna, depuis le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe. Et ça, ce sont des choses très importantes. Et au niveau des clubs, pareil. Je pense qu'ils ont manqué d'accompagnement.
L'équipe de France, à cette période, a eu pas mal de responsabilités aussi. Parce qu'à partir du moment où il y avait peut-être pas l'organisation autour de l'équipe qui permettait aux joueurs de bien vivre ensemble, rendait les choses beaucoup plus difficiles. Et je pense que ce manque de règles de vie a fait que ce groupe de joueurs ou cette génération de joueurs ont eu du mal à vivre ensemble.
Laurent Blanc quittera ses fonctions de sélectionneur à la suite de cet Euro, décevant au niveau sportif, chaotique sur le plan de l'image. L'ancien défenseur des Bleus a accepté de revenir sur sa relation agitée avec Samir Nasri, envers qui il ne conserve aucune amertume.
La plupart des gens se disent que tu n'as pas un bon souvenir de lui. Or, c'est l'inverse.
Bah oui.
Pourquoi ?
Je sais rien. Au niveau de la, tu sais très bien, au niveau peut-être de la communication, on n'est pas peut-être des communicants hors pair où on dit certainement les choses. En tout cas, on s'est dit les choses nous en face. C'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que je pense que moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et lui, il a du respect pour moi. Parce qu'on s'est dit les choses, non pas à travers les médias, on s'est dit les choses en face. Et ça, c'est quelqu'un qui aime ça. Et moi, j'aime ça aussi, parce que souvent, je me suis expliqué avec les personnes. Après, la communication tout autour, on la maîtrise pas. Tu es bien placé pour le savoir.
Été 2012. Une nouvelle ère s'ouvre en équipe de France avec la nomination de Didier Deschamps. L'ancien capitaine des Bleus promet de rétablir l'ordre après des années d'errance et de nouveaux soubresauts qui ont terni le bon travail effectué par Laurent Blanc. Malgré ses incartades à l'Euro, Samir Nasri est apprécié par le nouveau sélectionneur. Leur agent commun, Jean-Pierre Bernès, fera le lien entre les deux hommes. Et le Marseillais, après plusieurs excuses dans différents médias, sera rappelé en sélection 11 mois après le championnat d'Europe, réitérant à Clairefontaine son mea culpa.
Voilà, je tiens à m'excuser et j'espère que vous respecterez mon souhait de ne pas reparler du passé. Je suis focalisé sur le présent, sur le futur et sur cette seconde chance de revenir en sélection. Donc, si on peut éviter tout ce qui est question là-dessus.
Contre la Belgique, au cœur de l'été 2013, il signe son grand retour. Il a 26 ans, 36 sélections et l'avenir devant lui.
Nasri arrive comme un débutant, presque comme un nouveau en équipe de France, mais il va vite retrouver une place dans le groupe qui sera plus forte que n'est son vrai rendement en équipe de France. Et septembre, octobre, ça se passe pas trop mal, et le barrage en Ukraine est une vraie catastrophe.
Cette nuit du 15 novembre 2013 a tourné au cauchemar pour les Bleus et Samir Nasri. Titulaire au poste de meneur de jeu, le joueur de Manchester City, préféré à Mathieu Valbuena, passe complètement à côté de son match, comme l'ensemble de ses coéquipiers, défait 2-0 à Kiev. En interne, son attitude agace.
L'entraînement qui suit, il a une attitude qui déplaît fortement au staff de l'équipe de France, où il cherche à sa façon à dissiper un peu quelques-uns de ses petits coéquipiers. Alors je sais qu'il s'en défendra, qu'il dira que les joueurs sont assez grands, assez adultes pour pas se laisser dissiper, et que lui, il a rien fait de mal. N'empêche qu'on est dans une vie de groupe, que les joueurs ont beau avoir 25 ou 30 ans, ils ont une tendance à avoir un comportement un peu puéril et un peu adolescent dans ces moments-là. Et certains sont plus manipulables que d'autres. Ça plaît pas à Deschamps, ça plaît pas à son staff.
Au match retour, c'est depuis le banc de touche qu'il assiste à la qualification mémorable des Bleus pour la Coupe du Monde au Brésil.
Nasri !
Les semaines passent et le mancunien revient au sommet de sa forme. Titulaire avec City, qu'il porte jusqu'au titre de champion. Il effectue une saison pleine et remporte également la Coupe de la Ligue. Buteur en finale face à Sunderland, il est élu homme du match.
From Samir Nasri. Amazing goals.
C'était sa meilleure saison parce que tu sentais que les joueurs lui faisaient énormément confiance. Les joueurs lui donnaient le ballon tout le temps. Il avait une certaine liberté sur le terrain d'aller un peu partout, et il s'entendait super bien avec David Silva, et sur le terrain, on avait l'impression qu'il y avait deux magiciens sur le terrain.
Épatant avec City, il ne sera pourtant pas convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Brésil, malgré le lobbying effectué par Jean-Pierre Bernès. Ce dernier, désormais fâché avec son ancien client, dont il ne veut plus parler, ira jusqu'à se brouiller momentanément avec Deschamps lors d'un dîner avec leurs épouses respectives. Mais rien n'y fera. Le sélectionneur refusera d'échanger avec Nasri et lui préférera notamment Clément Grenier. Il justifiera ainsi son choix sur le plateau de TF1.
Il l'a dit lui-même, il n'aime pas être remplaçant, et je peux vous le dire, ça se voit. Un sélectionneur pense à un collectif, à construire un groupe. On est parti sur une aventure qui va durer 6 semaines au minimum. Vivre ensemble sur une aussi longue période demande des qualités humaines.
En sélection, quand tu pars sur une Coupe du Monde ou sur un Euro, il faut être sûr des gens avec qui tu vas t'embarquer sur le bateau. Il n'y aura pas d'escale, il n'y aura rien. C'est un garçon qui est bien élevé, entendons-nous. Hein. C'est pas, j'ai pas décrit un petit voyou, loin de là. Mais c'est un garçon qui a du mal à avoir une ligne de conduite, et il est très très instinctif, très très réactif, et pas visiblement pas toujours dans le bon sens.
Se priver de Samir Nasri fut sans doute le premier choix majeur de Didier Deschamps dans la constitution d'un groupe plutôt qu'une somme d'individualité. Selon nos informations, le Basque, qui n'a pas souhaité participer à ce documentaire, reprochait aussi à Nasri d'avoir une influence négative sur Franck Ribéry, ce qui irritera au plus haut point le Munichois, vexé d'être considéré par le sélectionneur comme la marionnette de son coéquipier.
Je ne veux pas dire qu'il mettait le bazar non plus, il ne faut pas exagérer. Les hommes ne sont ni mauvais à ce point-là, ni bons à ce point-là. Mais un grand joueur, il faut être complet, il faut un petit peu aimer les autres, s'aimer peut-être un peu moins, être un peu plus collectif et peut-être un peu plus respectueux.
Alors vous avez deux types de joueurs. Vous n'avez pas trois, vous n'avez pas quatre. Il y a le mec qui veut jouer, et que quand il joue pas, il est pas content. Et ça, c'est 90 ou 95% des joueurs. Et vous avez effectivement des joueurs, mais ça représente Rien du tout dans un groupe. Qui se disent, je suis là, je suis content d'être là. Bon, je vais faire mon possible, mais je suis là pour le groupe. Ah, ceux-là, ils sont super. Mais c'est pas la totalité de votre groupe. Ça représente 2 ou 3 joueurs. Alors, il faut les avoir, parce qu'ils arrivent à maîtriser l'ambiance générale du groupe. Mais les joueurs de caractère, c'est la base d'une équipe, à mon avis. Et Samir fait partie de cette caste-là.
Pour moi, Samir Nasri et Nicolas Anelka, il y a beaucoup de similitudes. Je peux vous dire que je préférais avoir Samir Nasri, Nicolas Anelka dans un vestiaire plutôt que certains joueurs. Je peux vous assurer. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là, quand ils ont quelque chose dans leur tête, vous le savez, vous allez le savoir. Assez rapidement. Malheureusement, ils vont pas, quelquefois, ils vont pas le faire avec le tact adéquat, mais vous allez le savoir. Contrairement à un certain nombre de joueurs, je peux vous assurer, ils vont vous faire des sourires de façade, mais derrière, ils vont vous planter.
La situation va considérablement se crisper entre le sélectionneur et Samir Nasri. Sa compagne, la mannequin britannique Anna Rahatan, insultera Didier Deschamps sur les réseaux sociaux, mécontente de la non-sélection de son conjoint. Deschamps, par la voix de son avocat Maître Bruza, portera plainte auprès du tribunal de grande instance à l'encontre de la jeune femme pour injure publique, avec constitution de partie civile.
On n'est pas là pour rechercher nécessairement des sanctions. On est là surtout pour retrouver la paix et la sérénité. Et les choses ont évolué, effectivement, quand le temps, je dirais, s'est écoulé, Monsieur Nasri a réfléchi et des excuses sont arrivées. C'est pour cette raison qu'ensuite, nous n'avons pas amener la plainte jusqu'au bout et nous nous sommes désistés et chacun a retrouvé son chemin.
Après Raymond Domenech, c'est donc avec Didier Deschamps que les relations sont devenues exécrables.
Il faut le dire, que ce soit Deschamps ou Domenech, ce ne sont quand même pas non plus des agneaux. Ce sont des gens capables, je dirais, de provocation, pas de manière maligne je ne suis pas en train de critiquer leur méthode, mais il faut reconnaître simplement que ce sont là 2 coachs, je dirais, qui avaient quand même une certaine forme de caractère, une certaine forme d'intelligence aussi, qui heurtait ou qui se heurtait à celle de Nasser, à celle de Samir. Donc forcément, oui, qu'il y ait eu des étincelles, à la limite, c'est pas très étonnant.
Si son histoire avec l'équipe de France est au point mort, sa cote en Première Ligue demeure intacte. Le 10 juillet 2014, à un an de la fin de son contrat, Samir Nasri prolonge son bail avec Manchester City jusqu'en 2019. Selon nos informations, il gagne alors 8 millions d'euros nets d'impôts, un salaire faramineux. Un mois plus tard, à 27 ans, il annonce dans les médias britanniques qu'il met un terme à sa carrière internationale. L'épilogue d'une histoire en bleu, à jamais inachevée pour le petit prince de Marseille. Il s'était confié à nos caméras quelques mois après cette décision.
Est-ce que la pire des choses pour vous, c'est finalement qu'il ait refusé de vous parler?
Tu fais ton choix, ok, je l'accepte, mais tu peux me donner une explication. Surtout que j'ai tout fait avec Jean-Pierre Bernès, il lui a dit « prends un avion, il vient te voir où tu veux ».
Votre agent?
Oui.
Commun?
Commun. Normalement, les choses doivent être beaucoup plus faciles, mais bon, bref. Il prend un avion, il vient te voir. Ok, je viens, tu ramènes Guy Stéphane, on est 4 au moins, chacun de ton côté, moi je suis de son côté et on règle les choses. Non, il n'a pas voulu. Moi c'est là où je lui en veux.
Si on vous disait ce que vous pensez réellement de Didier Deschamps, vous répondriez quoi en quelques mots?
Joker.
Vous lui diriez quoi s'il était en face de vous?
J'ai réfléchi pour pas que... On sait jamais, il peut porter plainte. Que c'est un hypocrite et que qu'il aurait dû se comporter en tant qu'homme et assumer ses choix. En assumant ses choix, en me disant écoute, c'est comme ça, tu viens pas et t'es pas content, ben tant pis. Mais au moins avoir une discussion en tant qu'homme.
Et Noël Le Graët, s'il est en face de vous?
Pareil.
Hypocrite, ça veut dire quoi? L'imposer, lui dire qu'il est le plus beau, le plus gentil, le plus merveilleux, qu'il a les gens les plus stupides autour de lui et lui le meilleur? Non, j'ai jamais cru ça.
Durant cette période, Samir Nasri diffuse alors l'image d'un personnage déplaisant. L'hebdomadaire VSD publiait à cette époque un classement des personnalités sportives les plus agaçantes pour les Français. Avec 67% des sondages, Franck Ribéry arrivait en tête de ce sondage, juste devant Samir Nasri et Nicolas Anelka. Dans son quartier d'enfance, l'incompréhension se mélange à la colère lorsque l'on évoque l'image écornée de Samir Nasri. Djelloul Ouaret est un personnage emblématique du centre social de la Gavotte Perret.
Tout à un euro, on prend. Tout un euro, on prend.
Un des tontons, hein, Samir Nasri, ici.
D'accord.
Jamel.
Donc tu as toujours sa famille qui vit ici.
Il connaît parfaitement la famille Nasri. Au bout de quelques minutes de discussion, nous croisons Jamel Nasri, l'un des oncles paternels de Samir. Immédiatement averti de l'objet de notre reportage, il se livre spontanément.
On comprend pas, on comprend plus. Bon, de toute façon, on se pose même plus de questions.
C'est-à-dire, on comprend pas.
Tout ce qui lui tombe dessus, quoi. C'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. C'est malheureux d'en venir là, oui, mais je pense que par moments, je dis oui, il y a un délit de faciès.
C'est un gamin protégé dans son environnement familial. Moi, je te mens pas. Ça va peut-être lui déplaire de l'aider dans ça, mais c'était la réalité. Tu peux pas te dire, putain, je viens de quartier, de machin. J'ai même pas eu le temps de vivre ça. Il a été condamné. Déjà, tout gamin, il a été condamné à cette pratique, cette irrégularité, cette dimension familiale, cette discipline familiale. Il a pas eu cette chance-là. Je dis, enfin, d'avoir une vie, peut-être épanouie de gamin. Mais par contre, si on cherche à coller cette étiquette de jeune de quartier, machin, ils se sont trompés avec lui parce que c'était un fils à papa.
Les polémiques continueront sans doute longtemps d'escorter le chemin de Samir Nasri. C'est auprès de sa famille, qui habite toujours la région marseillaise, que le jeune homme vient régulièrement se ressourcer.
Je suis infréquentable, pourtant j'ai des millions de followers. Je suis bankable, infréquentable.
Ça va pas?
Bien.
Ça va. Donc ouais, il vient s'entraîner avec l'équipe 2 où il y a ses frères, c'est ça?
Ouais, exactement.
Le père de Samir Nasri a accepté de répondre sans détour aux nombreuses critiques qui ont accompagné la carrière de son fils.
Les gens font que parler, font que critiquer. Forcément, à un moment, même moi, personnellement, je ne devais pas te cacher, ça me faisait mal, quelque part. Je sais pourquoi il le critique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un, il a fait quoi? Il a brûlé quelqu'un, il a fait quoi? Il a juste dit quoi? Juste chute à un journaliste. Les médias lui tombent dessus, il est mauvais, il est pas bon, il est ceci, il est cela. Il est mal éduqué, mal élevé. Alors là, ça m'a tué, mal élevé. Mal élevé, moi, mon fils, il est mal élevé. Il a manqué de respect à qui pour vous, parce qu'il a dit juste ça. D'ailleurs, le journaliste, il m'a appelé, ce journaliste, pour me dire oui. J'ai dit, écoutez, moi, je vous écoute, mais honnêtement, c'est pas moi qu'il aurait fallu appeler, c'est le concerné. C'est à lui que vous devez des excuses, si vous devez faire des excuses, et lui, peut-être, va vous faire aussi des excuses. Ça s'arrange là, ça s'arrête là. Il m'a dit, moi, j'ai pas voulu que ça se propage autant que ça, par rapport à... parce que c'était rien du tout. Il m'a dit des mots, je lui ai dit des mots. C'est une histoire d'homme, c'est ce qu'il m'a dit, le journaliste. Hein.
Est-ce non, que lui, il a fait son autocritique aussi?
Mais bien sûr. Il m'a dit, moi aussi, j'ai papa, il m'a dit, je suis pas tout rose non plus, j'ai eu mes écarts, il y avait peut-être, mais, je te dis, il a eu des comportements parce qu'il y a eu des situations qui ont fait qu'il a réagi. Parce que c'est pas un garçon d'ancien, c'est pas un garçon qui manque de respect aux gens. Ça, c'est certain, ça, c'est sûr certain. Il va pas insulter les gens, il va pas se battre avec les gens pour un an. D'ailleurs, il s'est jamais battu. J'ai pas le souvenir où il y a eu une bagarre avec qui que ce soit. Oui, il y a eu des petites broutilles, mais c'est des broutilles de l'Olympique de Marseille que Mathieu est venu raconter. Et encore, c'était même pas sa mère, c'était Franck qui lui faisait des petites misères.
Mathieu Albuena, ouais.
Il lui faisait des petites misères. Il mettait du sel dans les chaussures, il lui chiait dans les, je sais moi, il faisait plein de bêtises. Mais est-ce que pour autant, c'est Samir? Non, c'est pas Samir. Samir rigolait, mais ça lui faisait rire. Comme tout le monde rigolait, ça lui faisait rire. Et pourquoi tu t'acharnes comme ça? Parce que c'est son ami, c'est son pote. C'était des potes à l'époque, hein, l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Non, moi, enfin. Je t'ai dit, les gens, tu pourras jamais les empêcher de parler.
Samir Nasri est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Après Sonia, sa petite sœur âgée de 24 ans, il y a Malik en t-shirt et Walid qui porte ici un sweat à capuche. Les jumeaux, 20 ans, tous les deux étudiants à la fac de lettres d'Aix-en-Provence.
Comment vous avez vécu les polémiques qu'il y a eu au cours des dernières années autour de Samy, autour de l'équipe de France, etc.
Ben, plutôt mal. Hein. Plutôt mal parce que quand on le connaît, on sait que c'est tout l'inverse. Et le problème, c'est que les journalistes, ils ont pu donner une image que Samir n'a pas. Après, pour ses fans qui voient ça toute la journée dans les journaux, Samir l'a fait ci, Samir l'a fait ça, c'est pas très bon. Nous, ça nous fait du mal. Je pense qu'on est les premiers à souffrir de ça, justement.
Surtout que on est jeunes, on est la génération des réseaux sociaux et tout. Quand tu vas sur Facebook, que tu vois que ça insulte ton frère, que ça insulte ta mère, qui n'a absolument rien fait, que ça insulte les membres de ta famille, qui ne les connaissent pas, ça te fait du mal. Franchement, ça te fait du mal. Et on l'a tous mal vécu. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que ma mère et ma sœur ne veulent pas parler. Parce qu'elles l'ont encore plus mal vécu que nous. Du coup, elles veulent pas parler, quoi. Et... Non, vraiment, ça fait du mal. Ça fait vraiment beaucoup de mal.
Les deux femmes de la famille, elles ont été, vous nous raconter un peu. Et...
Très, très, très affectées. Très, très affectées. En plus, les deux sont, ma mère et ma sœur sont gravement malades. Du coup, avec toutes ces polémiques, toutes les insultes et tout, qu'il y a pu avoir contre mon frère, ça leur a pas fait de bien. Ça leur a pas fait de bien. Vraiment, ça nous a fait mal. Même mes grands-parents étaient au courant. Pourtant, mes grands-parents, Facebook, tout ça, ils connaissent pas, mais ils voient que ça critique leur petit-fils. Aussi, ça leur fait mal. Non, vraiment, la famille l'a mal vécu. En général.
Est-ce que c'est aussi pour ça que Samir, à un moment, en 2014, il a dit... Bon, même si l'équipe de France voulait plus de lui, hein, mais il a dit stop. En tout cas, c'est ce qu'il a un peu raconté, ça. Il a dit, voilà, moi, il y a ma mère...
C'est ça. Il a suivi le conseil de ma mère. Ma mère lui a dit, arrête, t'es pas aimé, arrête, ça sert à rien. Tu te fais du mal.
L'image du mauvais garçon lui colle désormais à la peau, et c'est en bonne partie de sa responsabilité. Mais les amalgames et les raccourcis sur sa personnalité ont aussi pu parfois toucher à la caricature, accentuer ses défauts et balayer ses qualités.
Il aime rire tout le temps. C'est, on a plus de 30 ans et on joue à des jeux simples. On peut jouer à cache-cache, comme à des trucs tout simples. C'est incroyable ce type.
On joue à cache-cache.
On a 30 ans passés, on joue à cache-cache. C'est un gars simple. Il ne m'a jamais montré que c'était Samir Nasri ou quoi. Non, c'est Samir.
C'est un bon vivant. Il est marrant, il est chambreur, il est... Il a un avis sur tout. On arrive à avoir des discussions avec lui. Il est intéressant. C'est bon de vivre avec lui. C'est quelqu'un de vivant, tout simplement.
Moi, j'ai une anecdote. C'est tous les gens me disent, ah, t'es ami avec Samir. Je dis, ouais, il est arrogant. Hein. Je l'ai présenté à ces gens-là. Et je parle pas de petits jeunes qui sont fans. C'est des pères de famille, 30 ans, 40 ans. Ils se sont excusés auprès de lui.
C'est-à-dire,
voilà, on te pensait arrogant à travers les images de la télé, mais on s'excuse. En fait, t'es un gars simple et t'es un gars bien.
Je me souviens, à l'époque, on avait fêté la Christmas party et on était... Samir avait organisé le voyage et on avait passé le week-end à Paris. Et tous les joueurs, la plupart des joueurs, on avait pris l'avion, boum, on a été faire la soirée à Paris, après on est rentré. Et c'est Samir qui s'était occupé de tout ça. Et les joueurs... Les joueurs l'aimaient beaucoup de ce côté-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était bon d'être avec lui, parce qu'il est très chambreur, parce qu'il aime rire, il aime la vie, et ça les joueurs le ressentent.
Surdoué du football, honni par d'anciens coéquipiers, mais apprécié par la plupart d'entre eux, le Marseillais a vu sa trajectoire ternie par des coups de sang inutiles et une attitude parfois arrogante. Malgré ses facilités oratoires, sa communication sans filtre lui a aussi sans doute beaucoup coûté.
Il savait qu'il avait sûrement un problème au niveau de la communication, comment exprimer ce qu'il pouvait vraiment ressentir. Et des fois, ça pouvait choquer des gens parce qu'il était direct, il était cash. Et ça, ils s'en rendaient compte. Ouais.
Êtes-vous un petit con ?
Non, je suis pas un petit con. Des fois, je peux être un petit con. De temps en temps, allez, ouais, je peux dire, ouais, je suis un petit con. De temps en temps. De temps en temps, je peux être un petit con.
Pourquoi ?
Je sais pas, j'aime bien de temps en temps. J'aime bien emmerder, c'est comme ça. De temps en temps, j'aime bien embêter les gens.
C'est bizarre. C'est bien de le reconnaître, mais...
Non, c'est comme ça. J'aime pas me taire. Si je trouve que hop, c'est une injustice, eh ben, ça va être moi le petit con qui va venir, qui va ramener sa gueule pour l'ensemble du groupe. Dire ouais, mais pourquoi? Ouais, mais pour si. C'est juste... Ça, je le concède, ouais. De temps en temps, je peux être un petit con.
Avez-vous trop souvent ouvert votre gueule?
Ouais. Ouais. Des fois, il vaut mieux la boucler. Mais ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Je l'ai fait lorsque j'étais plus jeune. Et je rentrais à la maison avec des fois une boule au ventre. Et des fois, t'exploses, mais pas avec la bonne personne. Donc, je préfère dire tout ce que je pense, quitte à ne pas être aimé, quitte à paraître pour quelqu'un d'arrogant, quitte à être un petit con. Mais au moins, les gens que j'aime autour de moi, ben, ils en souffrent pas et ils en pâtissent pas.
À fleur de peau, attentif à tout ce qui se dit et s'écrit sur lui. Comme lorsqu'il apprend que des journalistes du Monde s'apprêtent à citer son nom dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Soucieux de ne pas apparaître dans une affaire pour laquelle il ne sera finalement jamais entendu, ni par les juges, ni par la police, il contactera directement les journalistes du Monde pour s'expliquer.
Là, c'est le type qui t'appelle directement, tu sens vraiment que s'il est là, il peut t'en coller une, quoi. Voilà. Mais il est pas là, et en même temps, je comprends son agacement parce que c'est la première fois que son nom apparaît et qu'il va être embringué dans une histoire dans laquelle il n'aurait pas voulu être embringué. Il a modulé son discours, donc il est malin. Et bon, moi, qui suis le football depuis très très longtemps, je connais son histoire par cœur à Nasri, je sais exactement ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un d'effectivement malin, quelqu'un qui traîne avec des gens peu recommandables, mais qui essaie de s'en extirper à chaque fois et qui s'en sort à peu près correctement à chaque fois.
Il traverse à ce moment-là la pire période sportive de sa carrière. Blessé, il est privé de compétition de la mi-octobre jusqu'au printemps. L'été suivant, il revient de vacances avec quelques kilos en trop et est exclu du groupe. Mais il les perd et Pep Guardiola souhaite alors le conserver. Samir Nasri décide pourtant de rejoindre le FC Séville en prêt.
Pour mon podcast, j'avais interviewé Marty Perarno, qui a écrit une biographie officielle de Pep Guardiola. Il m'avait confié que Pep avait été déçu que Nasri ne se batte pas pour gagner sa place, et qu'il ait préféré partir en prêt, parce que Pep croyait en ses qualités.
La vie espagnole, le jeu espagnol, le rythme, c'est tout ce qui lui convenait. C'était parfait pour lui.
À Séville, on assiste à la renaissance du français. Mais après une première partie de saison enthousiasmante, il commet une nouvelle erreur. En huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le 14 mars 2017, il est expulsé après un accrochage avec Jamie Vardy, l'attaquant de Leicester. Son geste fait alors beaucoup jaser en Espagne. Le club andalou ne lèvera pas l'option d'achat de 19 millions d'euros à la fin de la saison. L'été suivant, il s'engage deux saisons à Antalyaspor, alors que Rudy Garcia a refusé de le recruter à l'Olympique de Marseille, où son agent l'avait proposé. L'aventure sera brève. Après seulement 6 mois et 8 matchs disputés, il rompt son contrat avec le club turc, plongé dans une crise institutionnelle. Nous sommes le 31 janvier 2018. 3 semaines plus tard, la carrière du Français prend une tournure alarmante. L'UEFA le suspend 6 mois pour dopage, en raison d'une injection qu'il n'avait pas le droit de recevoir lors d'un voyage en famille à Los Angeles 1 an plus tôt. Les enquêteurs de l'instance européenne ont été alertés par les réseaux sociaux et cette photo, diffusée par l'établissement californien, accompagnée de la légende suivante. Nous avons fourni à Samir Nasri une infirmière à domicile pour une perfusion afin de le garder hydraté et en bonne santé pour toute sa longue saison.
Il était malade.
très 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 malade. Je sais pas ce qu'il a eu. Il a eu un genre de rhume amélioré. Genre c'était un truc de fou. Vraiment fièvre, tout vomi, tout ça. Genre c'était vraiment chaud. Et du coup, il a voulu prendre des vitamines. Mais c'était pas dans l'optique de dopage comme on a pu le voir ou quoi. Non, c'était juste dans l'optique de se sentir mieux. En gros, c'était dans le contexte de maladie. C'est, il a pas fait ça pour je sais pas moi, pour devenir Lionel Messi, hein. Mais non, c'était vraiment dans l'optique d'aller mieux. Surtout qu'on avait des sorties prévues, tout ça. Donc c'est dans cette optique là.
Ah d'accord, mais t'es parti. 31 mars, oui.
En appel, l'UEFA aggravera la sanction de 6 à 18 mois d'interdiction de terrain pour le Français.
On reproche à Nasri d'avoir utilisé une technique médicale qui s'appelle la perfusion, où dans ce liquide qu'on injecte dans une veine, on ajoute différents éléments. Alors, ça peut être des vitamines, ça peut être du glucose, du sodium, du sel. Mais ça peut être aussi des substances interdites. Mais même s'il n'y a pas de substance interdite dans la perfusion, elle est interdite en tant que telle depuis la prise de fonction de l'AMA, qui réglemente et qui dirige la liste des substances interdites. Il y a un dosage, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dépasser 50 millilitres toutes les 6 heures. Ça fait 200 millilitres par 24 heures.
Ça l'a touché ? Mais vu que c'est un compétiteur, il se dit quoi? Je vais revenir. Voilà. Son but, c'est de faire taire des gens maintenant. C'est de se prouver à lui-même qu'il n'est pas fini et qu'il va faire de belles choses.
Il fait un peu amateur dans l'histoire, car personne ne peut vous épingler pour une perfusion. La lutte antidopage n'a aucun moyen. En testant votre sang et vos urines, ils vont jamais savoir que vous avez une perfusion. Sauf si dans la perfusion, il y a un produit illicite. Mais autrement, aucun moyen de le savoir. Donc effectivement, il est un peu, je veux dire, limité, Nasri, de faire un truc pareil, de le passer dans les réseaux sociaux, et il se fait épingler comme ça. Alors, la volonté de se doper, on ne peut pas l'affirmer.
C'est certainement de sa faute aussi. À un moment donné, tu ne peux pas aussi toujours dire c'est la faute des autres, c'est la faute de la presse, c'est la faute de... Je pense qu'il aurait dû faire peut-être les choses autrement. Là, ce que je lui souhaite, s'il a fait encore une bêtise, il y a quand même des gens qui sont propices à faire des bêtises. Tu es d'accord avec moi? Il y en a qui en font moins que d'autres. Comme je disais, la preuve d'un grand joueur, c'est non pas qu'il ne fasse pas des bêtises, parce qu'il en fait comme les autres, hein. Il en fait comme les autres, un grand joueur. Mais c'est sa capacité à de ne pas renouveler les bêtises qu'il a pu faire. Et j'en discutais avec, pour ne pas citer Mbappé, qui va faire des bêtises. On ne peut pas lui reprocher de faire des bêtises. Il a 19 ans. À 19 ans, tu n'as pas fait de bêtises, toi ? Moi, j'en ai fait beaucoup. Et on continue d'en faire. Le seul truc, c'est d'avoir la capacité et l'intelligence d'analyser, de dire, voilà, j'ai fait cette connerie, cette bêtise, parce que c'était mon âge, parce que je devais la faire. Parce que je devais la faire pour ne plus la refaire. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et je pense que Samir, il a toujours été là-dedans.
À 31 ans, Samir Nasri a repris le fil de sa carrière, mise entre parenthèses durant plus d'un an. Le 1er janvier dernier, il s'est en effet engagé pour 6 mois avec le club anglais de West Ham. Si sa suspension pour dopage a assombri davantage encore sa réputation, le jeune homme a obtenu une nouvelle chance de finir sa carrière honorablement et d'adoucir une image largement écornée.
Tu nous as dit, moi je veux parler. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ça te tenait à cœur?
C'est l'occasion d'essayer de donner un autre portrait de mon frère, que je pense qu'aujourd'hui la plupart des Français le voient toujours comme le bad boy, le mauvais garçon, tout ça, surtout avec la nouvelle histoire de sa suspension et tout. Je pense que ça lui, c'est pas bon pour lui, mais je pense que nous, ses frères, ou que même son entourage proche, des amis à lui, même certains de ses entraîneurs, des coéquipiers, puissent parler et puissent donner leur avis sur la situation, sur les polémiques dont il a fait l'objet et tout. Je pense que c'est important pour essayer de donner un autre portrait, une autre image de mon frère et montrer que au-delà du bad boy, c'est aussi un mec gentil, généreux, simple, et pourtant il est perçu comme quelqu'un d'assez arrogant, mais c'est quelqu'un de très simple en fait.
Est-ce qu'à un moment vous êtes dit aussi qu'il avait commis des erreurs?
Bien sûr. Ça reste un homme. Peut-être que justement, quand on parlait de diplomate, il aurait pu l'être des fois, sûrement. Après, Samir, il passe pas par quatre chemins. Et ça, moi, c'est un caractère que j'apprécie. Il y en a qui vont pas aimer. Il y en a qui vont pas aimer, mais au moins, ils peuvent se regarder dans une glace. Tout simplement.
J'ai été interviewé sur Nashri. J'ai été interviewé sur Karim Benzema. Voilà, j'ai fait des reportages de 25, 30 minutes, une heure. Et comme j'ai dit du bien, c'est jamais passé, quoi. Alors j'espère simplement, Sébastien, que ça passera.
À Londres, Samir Nasri, devenu papa d'un petit garçon pour la première fois l'an dernier, est convaincu de retrouver son meilleur niveau. Clivant, singulier, l'homme a toujours détonné dans le milieu du foot, par ses frasques et ses coups de sang, mais aussi pour son charme et son talent. Réaliser son portrait, c'est se confronter à un personnage clair-obscur. Un personnage qui divise, agace, fascine. Une chose est sûre, Samir Nasri ne plaira jamais à tout le monde.